Bonjour les oreilles et bienvenue dans l'émission Conte Goutte, une émission dédiée au conte, à son contexte et à ses multiples interprétations. Une émission dédiée à toutes ces histoires qu'on raconte pour s'endormir, se réveiller, pour partir et peut-être revenir. Je vous donne une poignée de mots pour qu'ils ne tombent ni de haut ni dans l'oubli, faites-en bon usage. Je suis Caroline et je vous propose de faire la route en ma compagnie pour une petite demi-heure et à toute heure du jour et de la nuit, dimanche et jours fériés compris, en podcast sur le site de Radio Campus Grenoble. Réfléchissant à un thème pour cette émission, j'ai eu envie de passer à table. Dans la littérature, la nourriture est partout. Si la lecture de certains textes vous donnera faim, d'autres lectures, à coup sûr, vous couperont l'appétit. C'est fou comme la nourriture peut faire ressortir les pires côtés de l'être humain. Si on regarde du côté des contes classiques, les enfants servent souvent de repas et le cannibalisme est très présent. Pensez à la sorcière d'Hansel et Gretel. Elle emprisonne les enfants et fait engraisser Hansel pour le manger et tous les matins, elle va voir Hansel qui est enfermé et lui dit cette phrase terrible « Hansel, sors tes doigts que je sente si tu seras bientôt assez gras ». Dans l'histoire du Petit Poucet, ce n'est pas une sorcière qui s'adonne au cannibalisme, mais un ogre. Le Petit Poucet, perdu dans la forêt avec ses frères, trouve une maison dans laquelle se réfugier tandis que la nuit tombe. Une femme leur ouvre la porte. « Hélas, mes pauvres enfants, où êtes-vous venus? Savez-vous bien qu'ici c'est la maison d'un ogre qui mange les petits enfants ?»« Hélas, madame, lui répondit le Petit Poucet. Il est bien sûr que les loups de la forêt ne manqueront pas de nous manger cette nuit si vous ne voulez pas nous retirer chez vous. Et cela étant, nous aimons mieux que ce soit monsieur qui nous mange. » Pour ces enfants dans les contes, se faire manger, c'est aussi se faire punir. Le petit chaperon rouge, pour ne pas s'être assez méfié du loup et pour lui avoir donné trop d'informations, sera mangé par celui-ci. De même pour Hansel et Gretel qui seront appâtés par la maison mangeable sans se méfier de la sorcière. La nourriture met aussi en lumière beaucoup de problèmes d'ego. Comme vous allez l'entendre dans l'extrait à suivre, la générosité et les sacrifices ne suffisent pas toujours. Voici un extrait d'un conte indien intitulé « Le roi qui se laissait frire ». Il y a vraiment très longtemps, vivait un roi, le roi Karan. Il s'était juré de ne jamais toucher à son repas du matin avant d'avoir distribué un quintal de pièces d'or aux pauvres. Tous les jours, donc, avant de prendre son petit déjeuner, il envoyait ses serviteurs distribuer des paniers et des paniers de pièces d'or aux pauvres et aux mendiants. Ceux-ci, comme vous pouvez l'imaginer, n'oubliaient jamais d'être là pour recevoir l'aumône. Ils se bousculaient, jouaient des coudes, se piétinaient jusqu'à la dernière pièce. Quand les paniers étaient vides, le roi s'installait joyeusement devant son petit déjeuner avec le sentiment confortable du devoir bien fait. Ceux qui voyaient le roi distribuer son or de cette manière se disaient qu'un jour ou l'autre, il viendrait à bout de ses richesses et qu'il se retrouverait pauvre et démuni. Son trésor ne pouvait pas être éternel. Mais cela a duré des mois et des années et tous les matins, il faisait distribuer son quintal d'or et s'installait aussi heureux, aussi satisfait, aussi affamé et aussi gras devant son premier repas du matin. En vérité, le roi Karan avait un secret. Il avait passé un accord avec un vieux fakir aussi sain que vorace qui vivait au sommet d'une colline. Tous les matins, il devait se rendre chez lui, se laisser frire et manger tout entier en guise de petit déjeuner. En échange, le fakir lui donnait tous les jours un quintal d'or. Si le fakir avait été une personne ordinaire, le roi se ferait manger une seule fois et l'histoire serait terminée. Mais le fakir avait des pouvoirs remarquables. Quand il avait fini de manger le roi Karan, il nettoyait ses os sans y laisser la moindre miette de chair. Il les assemblait, récitait une ou deux formules magiques et le roi était là, debout devant lui, plus gras et plus joyeux que jamais, prêt pour le petit déjeuner du lendemain. Jamais le moindre souci ne venait déranger leur rituel. L'affaire était aussi profitable pour l'un que pour l'autre. Il faut dire que le roi Karan n'appréciait pas de plonger tous les jours dans un bain d'huile bouillante. Son quintal d'or, il ne le volait pas. Avec le temps, il s'était néanmoins habitué au rituel. Il se rendait avec entrain chez le fakir affamé où la poêle à frire bouillait au-dessus du feu sacré et il plongeait gracieusement dans l'huile bouillante. Quel grésillement ! Quel frétillement ! Quand il était croustillant et bien doré, le fakir le dévorait avec appétit, nettoyait ses os et les assemblait. Ensuite, il récitait une formule magique et le travail était fait. Le fakir saisissait alors son vieux manteau sale et usé. Il le secouait, et les pièces d'or tombaient des poches, sonnantes et trébuchantes. Voici comment le roi Karan avait tant d'or à distribuer. Plus loin, dans le pays, il y avait un grand lac, le lac Mansarobar. Là, les cygnes sauvages venaient se nourrir de perles. Les perles étaient devenues si rares qu'il n'y avait plus rien à manger. Deux cygnes, un mâle et une femelle, ont donc décidé de partir de par le monde pour chercher à se nourrir. Ils ont volé jusqu'au jardin du roi Bikramajit à Ujjain. Le jardinier, émerveillé par les oiseaux, leur a donné du grain en espérant qu'il resterait. Les cygnes ont dédaigné le grain. Ils n'en ont pas goûté un seul. Le jardinier est allé trouver son roi pour l'informer qu'il y avait deux cygnes dans son jardin qui refusaient de se nourrir. Le roi connaissait le langage des animaux et des oiseaux. Il est allé auprès des deux cygnes et leur a demandé pourquoi ils refusaient toute nourriture. « Nous ne mangeons ni grains ni fruits », ont répondu les oiseaux. « Nous ne nous nourrissons que de perles non percées. » Le roi, qui avait un grand cœur, est allé leur apporter un panier de perles. C'est ainsi que tous les matins, il donnait à manger aux deux cygnes sauvages de ses propres mains. Un jour, pendant qu'il leur distribuait les perles, les deux oiseaux se sont aperçus que l'une d'elles était percée. Ils ont supposé que les réserves du roi touchaient à leur faim. Ils ont décidé de rentrer chez eux. Malgré les supplications du roi, les deux cygnes ont déployé leurs ailes blanches et se sont envolés dans le ciel bleu en direction du grand lac Mansarobar. Ils étaient reconnaissants. Aussi, pendant qu'ils volaient, ils chantaient les louanges du roi Bikramajit. Ce jour-là, le roi Karan est à sa fenêtre. Il observe ses serviteurs en train de distribuer les paniers d'or aux pauvres. Il voit deux cygnes sauvages traverser le ciel au-dessus de sa tête et il entend chanter « Gloire à Bikramajit ! Gloire à Bikramajit !» Il se dit « Mais qui est cet homme dont les oiseaux chantent les louanges ? Moi, je me laisse frire et manger tous les matins afin de pouvoir distribuer de l'or aux pauvres et il n'y a pas un seul cygne pour chanter mes louanges !» Jaloux, il envoie un homme attraper les deux volatiles. Celui-ci les capture avec un piège à glu et les met dans une cage. Se faire frire et se faire manger par un fakir tous les matins ne suffit pas si vous le faites pour les mauvaises raisons. Le roi Karan consent à cette torture pour être bien vu par son peuple et forcément, tout s'écroule quand il découvre qu'il y a plus généreux que lui. Toujours un peu plus loin dans la cruauté, il y a la belle-mère de Blanche-Neige. Dans ce conte, lorsque la belle-mère apprend que sa belle-fille, Blanche-Neige, est plus belle qu'elle, elle ordonne à un chasseur de la tuer et de lui ramener son foie et ses poumons pour les manger. Là aussi, c'est l'ego qui parle, dévoilant la jalousie et la soif de vengeance qui ronge la belle-mère. Dans le genre parents cruels, on a aussi les parents d'Hansel et Gretel qui décident de les abandonner dans la forêt car ils n'ont plus assez à manger. Idem pour les parents du petit poussé. C'est vrai que la pauvreté peut pousser les gens à prendre des décisions dramatiques pour se délester de quelques bouches à nourrir. Mais dans La Grasse Matinée, ce poème de Prévert, eh bien, le poète associe nourriture et bouche affamée pour en faire un poème délicat et touchant. Il est terrible, le petit bruit de l'œuf dur cassé sur un comptoir d'étain. Il est terrible ce bruit, quand il remue dans la mémoire de l'homme qui a faim. Elle est terrible aussi la tête de l'homme. La tête de l'homme qui a faim, quand il se regarde à 6 heures du matin, dans la glace du grand magasin, une tête couleur de poussière. Ce n'est pas sa tête pourtant qu'elle regarde, dans la vitrine de chez Potin. Ils sont fous de sa tête, l'homme. Il n'y pense pas, il songe, il imagine une autre tête. Une tête de veau, par exemple, avec une sauce de vinaigre, ou une tête de n'importe quoi qui se mange. Et il remue doucement la mâchoire, doucement, et il grince des dents, doucement, car le monde se paye sa tête. Et il ne peut rien contre ce monde. Et il compte sur ses 10 doigts, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Cela fait 3 jours qu'il n'a pas mangé. Et il a beau se répéter depuis 3 jours, ça ne peut pas durer, ça dure. 3 jours, 3 nuits, sans manger. Thank you.
silver strands of time. I dreamt that you would come again. I dreamt that you were mine. In those unrecorded hours, on that unrequited night, in the way you looked at me as you lost me to the light.
Vous êtes sur Radio Campus Grenoble 90.8. Vous êtes toujours à l'écoute de Conte Goutte, une émission dédiée au conte, à son contexte et à ses multiples interprétations. Heureusement, la nourriture permet aussi de mettre en avant l'intelligence des personnages. C'est le cas par exemple dans ce joli conte vietnamien intitulé « Le gâteau du tête ». Le ciel avait comblé et même dépassé les attentes du sixième roi Huong Vuong en lui accordant pas moins de 20 fils. Autant d'héritiers mâles était assurément une bénédiction, mais posait un réel problème. Lorsque le souverain voulut se retirer et confier les rênes du pouvoir à un de ses enfants, il fut bien en peine de les départager. Fallait-il choisir l'aîné, comme l'exigeait la coutume, le plus fort, le meilleur général ou alors le plus respectueux? Après réflexion, il jugea que tous ces critères importaient peu, au fond. Les principales qualités requises pour un bon roi étaient l'intelligence, le sens de la mesure et, bien sûr, celui de la justice. Durant la nuit, un génie lui apparut en rêve et lui inspira une épreuve qui lui permettrait d'y voir plus clair. Dès le matin suivant, il convoqua les 20 princes et leur tint ce discours. « Mes chers enfants, je me fais vieux et le pays a besoin d'un nouveau roi. Aussi ai-je décidé de vous envoyer de par le monde avec, pour mission, de rapporter les plats les plus savoureux, accompagnés, bien sûr, de leurs recettes. Celui qui me rapportera le meilleur mets sera mon héritier. Et maintenant, allez! Vous avez un an, jour pour jour, pour trouver de quoi flatter le palais de votre père. » Quelque peu déconcertés par l'idée du roi, les princes n'en firent pas moins préparer leurs affaires. Chacun partit accompagné de l'escorte qui convenait à son rang et à ses moyens. Seul le 16e fils, le prince Liyue, qui avait perdu sa mère lorsqu'il était tout bébé, ne disposait ni de conseiller ni de serviteur. Le cœur lourd, il regarda ses frères prendre la route qui, avec une caravane, qui avec une troupe armée, en songeant « Comment vais-je pouvoir explorer le monde et satisfaire mon père alors que je n'ai même pas de cheval à enfourcher ?» C'est une tâche impossible. Tournant et retournant le problème sans trouver de solution, il finit par s'endormir. Pendant son sommeil, un génie vêtu de soie jaune et pourvu d'une longue barbe blanche, le même qui sait qui était apparu au roi, le visita en songe. « Je connais et ta solitude et le pieux désir qui habite ton cœur. Le trône t'intéresse moins que le devoir et l'obéissance à ton père. À ce titre, tu mérites mon aide. Il n'est nul besoin de galoper jusqu'à d'exotiques contrées pour en rapporter des aliments précieux, car en vérité, rien n'a plus de valeur que le riz qui fait vivre les êtres humains depuis toujours. Il te suffit de prendre du riz gluant, de le nettoyer dans une eau très pure et de le faire cuire à la vapeur. Quand ce sera fait, pétris-y deux gâteaux. Au premier, tu donneras une forme ronde, évoquant la voûte céleste. Ce sera un hommage aux bienfaits du ciel. Quant au second, tu le façonneras en carré, symbole de la terre nourricière. Tu garniras l'intérieur de ces gâteaux d'une farce composée de haricots broyés, d'oignons et de viande de porc, mêlant le gras et le maigre. Enveloppe le tout de feuilles de bananier et fais cuire à l'étuvée tout un jour et une nuit. Fais plusieurs essais afin d'être sûr de réussir cette recette et tes efforts ne manqueront pas d'être récompensés. Lorsque le prince se réveilla, il alla se confier à la vieille nourrice qui avait pris soin de lui lorsqu'il avait perdu sa mère. « Ce rêve est une manifestation du ciel. Il te protège, mon enfant. Il faut suivre sa volonté. » Rassuré par ces mots, Lieu réunit tous les ingrédients nécessaires et s'entraîna à confectionner les gâteaux. Il passa plusieurs semaines à régler la cuisson, déterminant le temps et la température qui convenaient le mieux au riz gluant et tenta des dosages variés de lard et de haricots pilés. Enfin, il réussit à établir une recette parfaite. Dès lors, il s'arma de patience et, suivant le conseil du génie, attendit avec sérénité la fin du délai fixé par le roi. Le jour dit, les princes affluèrent à la cour, rapportant de leur périple des délices sans nom. Leurs serviteurs, portant des livrées rouges et or, déposèrent des plateaux d'argent chargés des aliments les plus délicats et les plus exotiques jamais vus dans le royaume. Fruits rares, épices aux saveurs subtiles, poissons venus des mers lointaines, viandes cuisinées avec raffinement, la table du roi était recouverte de mets plus fabuleux les uns que les autres. Seul Lieu resta à l'écart, ses gâteaux à la main. Personne ne fit attention à lui devant une telle profusion de merveilles. Et le roi goûta chaque plat avec ravissement, le regard épanoui et la narine frémissante. Rouleaux de paon, pâtés de phénix, pattes d'ourson, foie de rhinocéros, que d'odeurs, de couleurs, de formes artistement découpées, de combinaisons inattendues, fraîches ou brûlantes, amères ou sucrées-salées, compactes ou plus légères que l'air, les nourritures innombrables posées devant le roi semblaient rendre sa décision plus difficile que jamais. Ce fut enfin au tour de Lieu de présenter ses trouvailles. Le vieux souverain découvrit avec curiosité l'humble emballage de feuilles de bananier et prit une bouchée du premier et du deuxième gâteau. Il ferma les yeux pour en goûter les saveurs mêlées, puis les rouvrit, l'œil pétillant. Il se leva alors pour annoncer que la compétition touchait à sa fin et qu'il pouvait sans conteste désigner le vainqueur, celui qui lui succéderait sur le trône. « Mes chers enfants, déclara-t-il, je vous remercie de toute la peine que vous avez prise pour me rapporter de tous les pays du monde les plats les plus succulents et les plus étranges qui soient. Mais, à la vérité, comment pourriez-vous les confectionner à nouveau, étant donné que certains ingrédients sont impossibles à trouver dans notre contrée ? Non, seulement les gâteaux de Lieu sont exquis, car il est aisé de se procurer de quoi les préparer. En outre, en leur donnant ces formes rondes et carrées, il a uni le matériel et le spirituel. Il ne s'est pas contenté de flatter le palais, mais a rendu hommage au ciel et à la terre, auxquels nous devons tout. À bien des points de vue, c'est lui qui mérite de prendre ma succession. » S'inclinant, le jeune prince prit alors la parole. « Mon père, pour tout vous avouer, je n'ai aucun mérite. La recette de ces gâteaux que vous appréciez tant n'est pas de moi. » Et de raconter au roi et à tous ceux qui étaient là les conseils qu'il avait reçus du génie. « Ton honnêteté t'honore, mon enfant, » répondit le souverain. « Et elle ne fait que renforcer ma conviction selon laquelle tu es digne de régner. Cette intervention divine, qui montre que tu as les faveurs du ciel, en est la preuve éclatante. » Il ordonna alors que la recette des gâteaux soit diffusée dans tout le pays et décréta que le gâteau rond porterait le nom de Ban De et le gâteau carré celui de Ban Chung. Et comme promis, il céda le pouvoir au prince Lieu qui monta sur le trône et devint le 7e roi Huong. Depuis lors, à chaque nouvel an, tous les Vietnamiens confectionnent pour célébrer les fêtes du Tet ces gâteaux de riz fourré, notamment le Ban Chung, symbole de la gratitude envers la terre qui nous nourrit tous. Voilà un conte qui, à travers la nourriture, souligne l'intelligence qu'il peut y avoir dans un plat, mais aussi sa spiritualité. La simplicité est valorisée, ainsi que le partage. Mais il y a d'autres bienfaits qui apparaissent dans les contes grâce à la nourriture et notamment la justice. Si vous ne pensez pas qu'on puisse rendre justice à travers l'odeur de la viande, écoutez donc cette histoire. Mustapha n'avait plus un sou. Impossible d'acheter quelque chose pour garnir son pain. Dans une rue, il passa devant un homme qui faisait des grillades. Il approcha son pain du fumet en se disant « Ainsi mon pain aura peut-être un peu de goût ». Mais l'homme se redressa d'un coup, empoigna Mustapha comme on attrape un voleur et lui demanda une pièce d'un dinar. « Mais pour quelle raison ?» dit Mustapha, étonné. « Tu as pris un peu de l'odeur de ma viande, il faut que tu me la payes !» Les deux hommes se disputèrent longtemps. Ils finirent par aller voir Nasreddin qui les écouta attentivement. Nasreddin réfléchit, puis il sortit un dinar de sa poche, le fit tinter par terre avant de le remettre tranquillement à sa place et dit à l'homme « As-tu entendu le tintement de mon dinar ?»« Bien sûr, » dit l'homme. « Eh bien, garde-le, c'est le prix du fumet de ta viande. » À travers ce conte et par le biais de la nourriture, on joue sur les sens et sur le bon sens. Là aussi, la pauvreté est à l'origine du conte et a des répercussions sur la nourriture. Mais un ressort comique apparaît rapidement, apportant légèreté et malice à cette histoire. Si Nasreddin vient de s'illustrer dans cette histoire par son sens de la justice, parfois son intelligence est douteuse, comme dans ce conte au premier abord gourmand, mais finalement pas tant. Il s'intitule « Les dattes ». En rentrant chez lui un soir, Nasreddin acheta des dattes. Il en mangea tout au long du chemin dans le noir et les trouva délicieuses. Arrivé chez lui, il alluma la lampe, ouvrit une datte et constata qu'elle contenait un verre. Il la jeta et en prit une autre. La seconde contenait aussi un verre. Pareil pour la troisième et quatrième. Alors, Nasreddin éteignit la lumière, recommença à manger ses dattes dans le noir et les trouva toujours délicieuses. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve dans 2 semaines pour la deuxième partie de cette émission. C'était l'émission Compte-Gouttes. Je vous dis à dans 2 semaines pour une prochaine émission sur Radio Campus Grenoble 90.8.